17h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et merci de nous prendre en marche pour cette première édition de ce mardi, de ce mercredi 2 août 2023 sur Radio de la Paix. En titre de cette édition, nous parlerons des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. 8 dossiers de candidature sur 758 pour les communales et un dossier sur 94 pour les régionales ont été rejetés par la CEI. Information partagée hier par l'institution au cours d'un point de presse et Junior Cardin nous proposera donc un compte rendu. Et puis la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, a échangé le vendredi 28 juillet 2023 à son siège à Abidjan avec des journalistes. La rencontre a porté sur la couverture maladie universelle, le point de Jean-Claude Mabéa dans cette édition. Et puis l'actualité internationale sera consacrée au putsch au Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent dès ce mercredi pour parler justement de ce putsch au Niger. C'est ce qu'a annoncé mardi soir l'organisation régionale dans un communiqué. Et sur la question de ce coup d'État et les sanctions qui en ont suivi, l'invité de la rédaction, le professeur Arthur Banga, expert des questions militaires, fera une analyse. Nous pourrons le retrouver en fin d'édition aux côtés de Gapienan Ouattara. La revue des titres de vos journaux parue ce mercredi sera l'affaire de Jean-Claude Comé. Voilà pour l'essentiel. Mais avant, ouvrons cette édition avec cette triste nouvelle tombée hier soir. L'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est décédé ce mardi 1er août à l'âge de 89 ans. Victime d'un malaise dans son fief de Daoukro, Henri Konan Bédié avait été transféré en urgence à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, PISAM. Revenons donc sur son parcours dans cet élément proposé par Jean-Claude Comé.
J'ai aussi une pensée pour mon pays, la Côte d'Ivoire, qui peine encore à engager un dialogue franc et sincère entre tous ses fils et filles pour construire une paix durable au service du bonheur de ses populations.
Cette voix d'Henri Konan Bédié que vous entendez s'est éteinte hier, mardi 1er août 2023 à Abidjan, victime d'un malaise dans son fief de Daoukro. Le chef d'État ivoirien avait été transféré en urgence à Abidjan où il est décédé dans la soirée. Avec cette mort, c'est un monument de la scène politique ivoirienne qui disparaît à 89 ans, avec un parcours professionnel et politique riche et dense. En effet, ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960, il a été aussi pendant longtemps ministre de l'économie et des finances de feu Félix Houphouët-Boigny, avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État en 1993 à la mort du premier président ivoirien. Mais la présidence de 1993 à 1999 de celui que ses proches appelaient affectueusement le sphinx de Daoukro a été perturbée par plusieurs controverses politiques, notamment le concept de l'ivoirité, qui selon des observateurs a contribué à la fracture sociale, ce qui a eu pour conséquence un coup d'État contre son régime en 1999. Depuis lors, l'ancien chef d'État qui présidait au destiné du PDC-RDA a dans sa stratégie politique pour revenir au pouvoir tisser des alliances d'abord avec des partis dites oufotistes, dans le cas du RHDP, avant de prendre ses distances après l'appel de Daoukro lancé en faveur d'Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien, avec qui il sera en opposition farouche en 2020, avec la création du CNT, le Conseil national de transition, après la présidentielle. Sa dernière grande manœuvre remonte à mai 2023, lorsque son parti, le PDCI-RDA, conclut un accord avec le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le cadre des élections municipales et régionales de septembre 2023. Et c'est donc en attente de ces joutes électorales du mois prochain que Nzueba, en français la fine pluie, comme on le surnommait, tisse sa révérence, et cela en pleine saison pluvieuse.
Effectivement, l'ex-président Henri Konan Bédié nous a quittés, mais son parti, le PDCI-RDA qu'il dirigeait, participera aux élections locales de septembre prochain. Et d'ailleurs, à cet effet, la CEI, la Commission électorale indépendante, a publié la liste des candidats retenus pour les élections des conseillers régionaux et municipaux du 2 septembre prochain. 8 dossiers donc de candidature sur 758 pour les communales et un dossier sur 94 pour les régionales ont été rejetés par la CEI. L'information a été donnée hier en fin de soirée par le porte-parole de l'institution à l'occasion d'un point presse. Et pour le cas des communes, écoutons quelques détails avec Émile Broutier.
La commission électorale indépendante, après en avoir délibéré, décide, article 1, sont rejetés pour composition non conforme à la loi. Les dossiers des listes de candidatures conduites par M. Seydou Ouattara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Yamoussoukro, Meïté Amadou du PDCI RDA dans la commune de Séfié, Fofana Lassina, dit Dosso, du PDCI RDA, dans la commune de Djibrosso, Dambélé Boué Junior, candidat sans étiquette politique, dans la commune de Kokodi, Diazé Gogo Otomna, candidat sans étiquette politique dans la commune de Lakota. Bazaré Nebi Raymond, candidat sans étiquette politique dans la commune de Divo. Mompo Seydou, candidat sans étiquette politique dans la commune de Kwibli. Article 2. Est inéligible la liste conduite par M. Bilali Diara, candidat sans étiquette politique dans la commune de Gagnoua. Article 3. Sont éligibles les candidats inscrits sur la liste annexée à la présente décision. Article 4. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les ont investis peuvent saisir le Conseil d'État dans un délai de 3 jours à compter de la date de publication de la présente décision.
Nous écoutions Émile Ébrotier, porte-parole de la CEI. J'ai noté que pour les régionales, la liste conduite par Bakayoko Mariam, candidate sans étiquette politique dans la région du Ouro-Dougou, a été rejetée pour dossier incomplet, donc non conforme de ses colistiers. Et pour des élections sans violence, la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation. C'était en présence des ministres Diomandé Vagondo de l'Intérieur et de la Sécurité, puis de Kwadio Konan Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale. Le compte-rendu est signé Mata Touré.
L'objectif affiché est certain et d'organiser le 2 septembre prochain des élections en toute transparence et dans la sérénité en Côte d'Ivoire. Pour le président de la Comnat ALPC, Djokoui Djibré Léon, l'objectif de cette campagne de sensibilisation des élections sans violence armée s'inscrit dans la dynamique de préservation de la paix.
À l'approche des élections locales, il est primordial que nous unissions nos efforts pour préserver notre démocratie, renforcer l'état de droit et promouvoir un processus électoral pacifique et transparent.
Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Diomando Vagondé, l'a encore répété hier, les forces de défense et de sécurité se tiennent prêtes à assurer la protection de tous les citoyens sans exception et de chaque candidat sans discrimination.
Je tiens à exprimer cette détermination du gouvernement à œuvrer pour la préservation de la paix et la stabilité en cette période cruciale. La violence n'a jamais été et ne sera jamais la solution à nos différends. Bien au contraire, la violence n'a fait que diviser notre société.
Une cérémonie en présence du ministre Kwadio Konan Bertin, qui s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, s'inscrit dans les missions confiées à son département ministériel. Enfin, une cérémonie qui a noté la présence de nombreux membres du corps diplomatique, de représentants d'institutions, dont la CEI, d'ONG et de la société civile.
La Caisse nationale d'assurance maladie universelle, CMU, a échangé, sinon la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, a échangé le 28 juillet dernier à son siège à Abidjan Plateau avec une vingtaine de journalistes. La rencontre a porté sur la CMU, la carte maladie universelle. Jean-Claude Mabéa y était. Suivons donc son compte-rendu.
Le point de l'opération d'identification et d'enrôlement à la couverture maladie universelle CMU a été fait à la presse par la directrice de l'affiliation de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, Kone Karidja.
En termes d'enrôlement à la couverture maladie universelle, le lundi dernier, on était à 4 612 592 personnes enrôlées. On a 2 841 349 cartes qui ont été distribuées. Aujourd'hui, la vraie réponse à la distribution des cartes, c'est la production in situ, la production sur place. Donc la CMU, c'est recouvrer les cotisations et surtout donner des prestations aux assurés.
Le panier des soins s'est renforcé avec la prise en compte de nouvelles pathologies, a expliqué le directeur des prestations de la CNAM, Dr Brou Christian.
Ce qui vient s'ajouter au panier de soins de la CMU, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine pour le bien des populations. De façon pratique, dès que le décret sera donc diffusé au journal officiel et que la liste des médicaments qui sont couverts dans le cadre de ces pathologies sera établie, les professionnels de santé seront informés ainsi que les pharmaciens et les populations pourront donc aller se soigner et bénéficier des prestations qui sont prévues dans ce décret. Aujourd'hui, nous avons 741 médicaments qui sont disponibles dans les officines pharmaceutiques privées, mais dans les départements qui malheureusement sont dépourvus de pharmacie, il y a 242 produits pharmaceutiques qui sont disponibles dans les établissements sanitaires publics qui sont mis en place par la NPSP.
Rappelons que l'opération d'enrôlement à la CMU est gratuite.
Autre sujet, médias notamment, 74 journalistes professionnels en ligne et acteurs de la société civile de Boaké ont vu leur capacité renforcée sur la lutte contre les messages haineux et les fausses informations. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Impact Entendez, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et tensions, a été initiée par un consortium de médias nationaux étrangers avec l'appui financier de l'Union européenne. Les détails dans cette correspondance de Joseph Assalé.
Qu'est-ce qui justifie la tenue de cet atelier de renforcement de capacités? Lassina Sermé, président du réseau des journalistes professionnels en ligne de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, même les GAFAM, les géants de l'Internet, sont préoccupés par donc, l'utilisation parfois malveillante que les usagers font donc, de leur plateforme. Et elles ont instauré en leur sein une forme d'autorégulation à l'effet donc, de contrôler tous les messages qui sont diffusés à travers leur plateforme.
Et en cette période électorale, quelle doit être la contribution des journalistes en ligne? Lassina Sermé.
En tant que journaliste, doit-on relayer tous les propos tenus par les partis politiques pendant cette période? Nous disons non. Donc comment le journaliste ou bien l'acteur de la presse en ligne que nous sommes pouvons-nous déceler un discours haineux, un message haineux à ne pas le publier et envenimer la situation sur nos différentes plateformes?
Ainsi donc, le président du réseau des journalistes professionnels en ligne de Côte d'Ivoire appelle au sens de la responsabilité de ses confrères qui doivent respecter non seulement l'éthique et la déontologie, mais aussi ils doivent se conformer à la charte dont ils se sont librement dotés.
Edgar Sémier, nous sommes à la veille des élections locales. Il faudrait que chaque journaliste soit professionnel.
Fatou Ouattara, mieux se comporter face aux fausses informations, à mieux traiter les informations, à bien les analyser avant de les diffuser.
La ville de Yamoussoukro est la prochaine étape de cette série de formations. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Nous en arrivons à la page internationale et c'est pour parler du putsch au Niger. Les chefs d'état-major des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent donc dès ce mercredi 2 au vendredi 4 août à Abuja au sujet du putsch au Niger, a annoncé mardi soir l'organisation régionale dans un communiqué. Les dirigeants ouest-africains réunis en sommet extraordinaire dimanche dernier dans la capitale nigériane avaient condamné le putsch et donné une semaine aux putschistes pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions, en se réservant la possibilité d'un recours à la force. Une délégation de cette institution ouest-africaine conduite par l'ancien président nigérien Abdul Salami Aboubakar doit également se rendre ce mercredi au Niger, ont indiqué sous couvert de l'anonymat une responsable de l'organisation ouest-africaine et un responsable militaire au Niger selon l'AFP. Nous vous le disions en titre, les unes de vos quotidiens parus ce mercredi matin ont été scrutées par Jean-Claude Comé. Il nous fait donc un tour d'horizon dans la revue des titres. Bonjour Jean-Claude Comé.
Bonjour Linda, bonjour à tous. L'information est tombée hier dans la soirée et fait la une de la quasi-totalité de la presse parue ce mercredi. L'ancien président Henri Konan Bédié est décédé. Et c'est une nouvelle qui a surpris plus d'une personne, comme le relève l'Inter avec ce titre. Bédié, l'inattendu adieu. Dernière heure monde qui souligne la consternation du côté des membres de son parti, le PDC-RDA, fait un adieu. Henri Konan Bédié, décédé à 89 ans. Henri Konan Bédié, le sphinx, s'est couché à jamais annonce l'avenir. Et titre identique pour le sursaut. La Côte d'Ivoire en deuil, c'est ce qu'écrit Notre Voix. Et Rideau écrit aussi Le Temps, qui affiche en principale une, la photo de l'esprit ivoirien. Bédier, le baobab s'est couché hier à 89 ans, c'est l'inspiration du rassemblement. La Côte d'Ivoire sous le choc, constate aussi l'intelligent d'Abidjan. Fraternité Matin, Le Matin et Le Patriote annoncent sobrement pour leur part que Bédier est décédé hier. Au-delà de cette information, ce sont les élections municipales et régionales qui intéressent certains confrères, notamment Le Matin, qui signale que 93 dossiers ont été retenus et un rejeté pour les élections régionales. Et ce journal, tout comme le Rassemblement, et se font écho des activités sur le terrain du RHDP, idem pour Le Temps et La Nouvelle Alliance, les deux journaux qui parlent du PPACI et de comment ce parti essaie de d'émailler le terrain avant les élections locales.
Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Decomé, pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8 heures, vous serez de retour pour le même exercice. Pour la dernière articulation de ce 7 heures, nous avons l'invité de la rédaction, la personne du professeur Arthur Banga, expert des questions militaires. Il décryptera les récentes mesures et sanctions annoncées par la CEDEAO au terme d'un sommet extraordinaire dimanche dernier. Pour rappel, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de l'institution et le Niger, ou encore l'ultimatum d'une semaine fixé aux putschistes pour restaurer l'ordre constitutionnel, souligne ne pas exclure un recours à la force. Ces sanctions pourraient-elles faire flancher les nouveaux hommes forts nigériens ? Professeur Arthur Banga, expert des questions militaires, est l'invité de la rédaction. Il tentera de donner des éléments de réponse en compagnie de Gapienan Ouattara.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Au regard de la situation de coup d'État au Niger, en votre qualité d'expert militaire, quel décryptage pouvez-vous faire des décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO?
Déjà, il faut se féliciter de la réaction rapide de la CEDEAO et de la fermeté de ses décisions. La fermeté de ses décisions traduit d'abord l'agacement de la CEDEAO et sa volonté d'en finir avec cette contagion de putsch. Agacement parce que la CEDEAO a essayé d'être, dans les trois premiers cas, Mali, Burkina, Guinée, d'être relativement compréhensible en se disant qu'il ne fallait pas punir les peuples, il fallait accompagner les jeunes à ramener rapidement l'ordre constitutionnel. Mais ça n'a pas dissuadé et donc d'aujourd'hui, il est agressif, le montrer plus de fermeté. Et fermeté parce que le coup d'État au Niger ne s'explique par rien de concret, rien de solide, à part un égoïsme d'un général. Et donc face à ces questions, la CEDEAO a décidé d'être alerte, ferme. On espère justement qu'elle pourra porter cette fermeté pendant toute la crise.
Ces mesures de la CEDEAO sont corsées, ce qui laisse penser à un agacement de la dite institution au regard de ce que l'on pourrait qualifier d'échec face à des coups d'État précédents au Mali, au Burkina Faso. Quel commentaire?
Moi, je suis bien d'accord avec vous. Peut-être que le mot échec est fort, mais si la CEDEAO veut que l'idée de coup d'État sorte carrément de son espace, elle doit réussir à ramener, à réinstaller le président Bazoum au pouvoir. Parce que si elle échoue dans cette mission, plus personne n'aura peur de la CEDEAO. Et c'est-à-dire que tous les putschistes, tous ceux qui auront l'envie de faire un coup d'État, la réussite de faire, pourront s'installer sans les graines.
Selon vous, par quelle alchimie la CEDEAO pourra-t-elle parvenir à faire réinstaller le président déchu Bazoum?
Déjà en maintenant ses sanctions, ensuite en préparant l'option militaire dans un délai relativement court pour pouvoir s'imposer au cas où la junte ne comprend pas, et en demandant à l'Union africaine et à tous les partenaires internationaux de l'Afrique d'adhérer aux sanctions qui seront prises contre le Niger. S'il y a une uniformité des sanctions, ça va passer.
Vous évoquiez une intervention militaire de la CEDEAO au Niger contre les putschistes. Cette option est-elle envisageable au regard de tous les risques et dangers que cela pourrait causer?
C'est une option qui n'est pas souhaitable parce qu'elle a des risques, évidemment, elle peut avoir des conséquences, mais c'est une option à envisager. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est envisageable. Ça va dépendre de ce que la junte va décider. Est-ce qu'elle va comprendre l'importance pour elle de partir, de remettre le président Bazoum au pouvoir? Et donc, c'est une option qu'il faut envisager de façon très sérieuse au niveau de la CEDEAO.
La fréquence ces dernières années des différents coups d'État en Afrique de l'Ouest, en votre qualité d'expert militaire, vous inspire quoi?
ça m'inspire déjà de la désolation, parce que c'est pas une question de stratégie militaire, c'est une question de gouvernance. On se dit aujourd'hui que le coup d'État fait plus partie des méthodes d'accession au pouvoir en Afrique. Et donc c'est déjà cette déception-là de citoyens. Ensuite, on se pose la question sur la formation civique citoyenne de nos militaires. Parce qu'on se pose aussi la question de leur responsabilité, de leur engagement. Et je pense que finalement, on sera obligé d'insister sur ces modules-là dans leur formation. Parce que ça devient désespérant de voir des militaires qui trahissent carrément l'engagement qu'ils ont pris à protéger leur pays.
Si nous devons creuser la question plus loin, est-ce que la conséquence de ces différents coups d'État n'est-elle pas la résultante de la malgouvernance, du manque de démocratie vraie et de la volonté des dirigeants africains à s'éterniser au pouvoir?
Sur les quatre pays qui sont victimes de coups d'État, il n'y en a qu'un seul, la Guinée, sur laquelle on peut invoquer le troisième mandat. Quand on parle de gouvernance, on va parler de problèmes de sécurité au Burkina, des problèmes de sécurité au Mali. Donc si à chaque fois qu'on a un problème de sécurité dans un pays, il va falloir faire un coup d'État? Non, ça ne doit pas expliquer ce qui se passe. C'est pour ça que moi je parle de prétexte. Il faut déjà être ferme contre les coups d'État. Et quand on va finir la fermeté, évidemment, la gouvernance, faut qu'on progresse dans notre démocratie en Afrique, faut qu'on fasse progresser nos institutions, ça c'est une évidence. C'est une évidence de tous les jours, mais c'est pas le coup d'État qui nous fait comprendre cette évidence-là. C'est la vie citoyenne de tous les jours qui nous fait comprendre cette nécessité. Et on essaie d'y travailler, tous devons y travailler, mais les coups d'État ne doivent pas être les signaux pour nous faire comprendre ça.
À qui profitent donc les coups d'État en Afrique de l'Ouest, M. Arthur Bamba?
Malheureusement, ils ne profitent qu'à la jeunesse qui s'installe. C'est un groupuscule de militaires qui prennent le pouvoir, qui se partagent les ressources du pays. Et parce que regardez les pays dans lesquels, au Mali, ça va faire bientôt 3 ans qu'il y a un coup d'État. Et donnez-moi un seul domaine dans lequel le Mali a évolué. Un seul, je ne demande pas deux.
Je n'en connais pas.
Voilà, mais par contre, si vous regardez, vous savez que la poche, la forme et le luxe de ces jeunes, vous allez comprendre qui sont ceux qui gagnent avec le coup d'État. C'est pas le peuple, en tout cas.
Le peuple ne gagne pas?
Non, il ne gagne rien. Au contraire, les libertés sont bafouées. Les seuls profiteurs, ce sont les putschistes, parce que c'est eux qui s'enrichissent, c'est eux qui rayonnent. Sinon, les peuples ne gagnent rien. Par contre, le luxe des putschistes, oui, c'est, ils ne se battent pas pour le peuple, parce que le peuple ne profite en rien de leur régime.
Merci à vous, professeur Arthur Banga.
Au revoir.
Le professeur Arthur Banga, expert des questions militaires, était l'invité de la rédaction de ce mercredi. Il répondait donc à cet effet aux questions de Gapienan Ouattara, un entretien qui met un terme à notre édition, le rappel des titres. Élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, 8 dossiers de candidature sur 758 pour les communales et un dossier sur 94 pour les régionales ont été rejetés, a appris la commission électorale indépendante hier au cours d'un point presse. Et puis la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM a échangé le vendredi dernier avec une vingtaine de journalistes. Le sujet au cœur de cette rencontre, la couverture maladie universelle selon notre reporter Jean-Claude Mabéa qui y était. Sur le plan international, putsch au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent de mercredi à vendredi à Abuja au sujet justement de ce putsch annoncé hier soir l'organisation régionale dans un communiqué. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Radio de la Paix, c'est à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.
Même si de l'eau a coulé, même si la ligne glissait depuis les nous joint.